VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du mercredi 17 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Alberson.
Nous commençons par les titres.
Les États-Unis prennent des sanctions contre deux hauts dirigeants de la filiale d'Al-Qaïda au Mali.
L'OMS va de nouveau évaluer aujourd'hui la portée de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.
Ici à Washington, résolution de la Chambre des représentants condamnant, je cite, les commentaires racistes du président Donald Trump.
Washington prend des sanctions contre des chefs de l'armée birmane pour nettoyage ethnique des Rohingyas.
La Corée du Nord lance une mise en garde contre les prochaines manœuvres entre la Corée du Sud et les États-Unis.
Et en sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'instant, le journal.
Les États-Unis ont ajouté hier Baag Moussa et Ali Maïchou, deux leaders d'une filiale d'Al-Qaïda au Mali, à la liste spéciale des terroristes, et ce, dans le cadre d'efforts plus vastes visant à cibler le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Kassim Traoré nous parle des deux terroristes.
Baag Moussa Diarra, communément appelé Baag Moussa, a participé à la rébellion Touareg de 1990 à 1996, au terme de laquelle il a intégré les rangs de l'armée malienne. Il reçoit le grade de colonel et est désigné commandant des unités spéciales chargées de combattre l'insécurité dans la région de Kidal. En 2012, il déserte à nouveau. C'est pour rallier les MLLA, mais considéré comme proche de Iyad Agali, il rejoint rapidement le groupe djihadiste Ansardine, puis le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans en 2017. Baag Moussa a participé à plusieurs attaques contre l'armée malienne et les forces étrangères. Quant à Abdourahman Al-Sahi, dit Ali Manchou, il était le cadi des djihadistes pendant l'occupation à Tombouctou. Il a par suite intégré le groupe de soutien à l'islam sous le contrôle de Iyad Agali. Baag Moussa et Ali Manchou sont les deux hommes que les États-Unis viennent d'ajouter à la liste des terroristes présumés mondiaux. Leur désignation bloque tous les avoirs de Moussa et Manchou se trouvant aux États-Unis ou sous le contrôle des citoyens américains. Il n'est pas clair si l'un ou l'autre des deux hommes a des biens sous la juridiction des États-Unis. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, le ministre des Finances du Zamfara, un état du Nord-Ouest, et deux membres de son équipe ont été enlevés par des hommes armés vêtus d'uniformes des forces de sécurité. Son adjoint a lui été tué. Selon un porte-parole régional, l'enlèvement d'Amza Saléou et de ses deux collaborateurs a eu lieu dimanche sur une route de l'état voisin de Kaduna, une région marquée par les violences entre agriculteurs et éleveurs.
Au Cameroun, la défense de l'opposant Maurice Kamto, qui doit être jugé devant le tribunal militaire de Yaoundé avec une centaine de ses partisans, a annoncé hier qu'elle allait faire appel de cette décision. Principal opposant au président Paul Biya à la présidentielle d'octobre 2018, Maurice Kamto a été arrêté, ainsi qu'environ 150 personnes, le 26 janvier dernier, à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du Cameroun.
L'Organisation mondiale de la santé va de nouveau évaluer aujourd'hui la portée de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo après le décès du premier cas enregistré dans une métropole, Goma, deuxième ville du pays et carrefour des Grands Lacs. Le point avec Jean-Roger Bion.
Un peu plus d'un mois après les deux premiers cas enregistrés à l'étranger en Ouganda, l'OMS va de nouveau se demander s'il faut élever cette épidémie qui a tué 1668 personnes depuis l'été dernier au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. La situation doit être pour cela grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue, avec des répercussions pour la santé publique au-delà des frontières nationales de l'État touché, ce qui peut exiger une action internationale immédiate selon les critères du règlement sanitaire international. La réponse avait été non le 14 juin dernier, mais ce premier cas diagnostiqué à Goma, la plus grande ville touchée avec 1 à 2 millions d'habitants, semble bousculer la routine de la riposte face à une épidémie déclarée le 1er août 2018. Conséquence, le directeur général adjoint de l'OMS, Ibrahima Sosefal, a déclaré à la presse qu'il est important d'évaluer le niveau de risque. L'évaluation de l'OMS montre que le risque est élevé pour les provinces et les pays voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, a ajouté le coordinateur de l'OMS sur place, Michel Yao. Goma est si proche du Rwanda qu'a d'ailleurs déconseillé à ses ressortissants de traverser la frontière.
Nous reviendrons sur ce dossier Ebola en seconde partie de cette édition.
Au Soudan, le mouvement de protestation s'est dit opposé à l'octroi d'une immunité absolue aux généraux au pouvoir qui pourraient faire l'objet de poursuites après les violences survenues pendant les manifestations. Une nouvelle rencontre entre les deux parties pour finaliser un accord sur la transition après la chute d'Omar al-Béchir le 11 avril était en cours mardi soir. Selon la protestation, l'un des principaux désaccords porte sur l'immunité absolue des militaires.
Human Rights Watch a appelé hier les autorités de la République arabe sahraoui démocratique proclamée par les indépendantistes au Sahara occidental à fournir les preuves des crimes commis par 3 militants sahraouis qui sont détenus ou à défaut de les libérer. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Moulay Ababouzid, Fadel Mohamed Breika et Mahmoud Zeidan ont été arrêtés à la mi-journée par les autorités de la RASD. Ils sont accusés d'incitation à la rébellion, diffamation et calomnie. Selon Human Rights Watch, les trois hommes sont détenus à Rabouni dans la région algérienne de Tindouf. Pour Lama Faki, directrice adjointe Afrique du Nord de Human Rights Watch, un mois après l'arrestation des trois hommes, les autorités n'ont toujours pas divulgué les éléments qui sous-tendent de telles accusations. Elle ajoute qu'en l'absence de preuves d'activité criminelle, les trois hommes devraient être remis en liberté. Messieurs Bouzid et Breika sont membres de l'initiative Sahraoui pour le changement et Monsieur Zeidan est membre du Forum des jeunes Sahraouis pour une solution, deux organisations basées en Espagne qui contestent la direction du Polisario et prônent de nouvelles approches pour régler ce conflit avec le Maroc. La RASD a été proclamée en 1976 par le Polisario soutenu par Alger, proclamant l'indépendance du Sahara occidental que le Maroc considère comme partie de son territoire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Ici à Washington, quatre républicains se sont joints à tous les membres démocrates de la Chambre des représentants pour approuver une résolution condamnant les commentaires racistes du président républicain Donald Trump contre quatre députées non blanches du Congrès des États-Unis. Cette résolution, 240 pour et 187 contre, condamne énergiquement, pour citer ces termes, les commentaires racistes de M. Trump qui ont légitimé et accentué la peur et la haine des nouveaux Américains et des personnes de couleur. Pour un des défenseurs du président américain, le député Dan Moyser, il s'agit d'une calomnie ridicule qui fait du tort à la nation.
Plus tôt dans la journée, M. Trump s'était vigoureusement défendu de tout racisme, Abdelrahman Dia.
Ses tweets n'étaient pas racistes. Il n'y a pas une once de racisme en moi, a lancé le président américain, appelant les élus de son parti à ne pas tomber dans le piège tendu selon lui par ses adversaires démocrates. La salve de tweets du président s'adressait à Alexandria Ocasio-Cortez de New York, Ilhan Omar du Minnesota, Ayanna Pressley de Massachusetts et Rashida Tlaib du Michigan. Dimanche, le président américain a conseillé à ses quatre élus de retourner d'où elles viennent. Le lundi, il a intensifié ses attaques, les accusant de haïr l'Amérique, ajoutant « Si vous détestez notre pays ou si vous n'êtes pas heureux ici, vous pouvez partir ». Les quatre femmes visées ont répliqué ensemble, affichant leur détermination à ne pas céder face à ces attaques. Quelques élus républicains ont dénoncé les tweets présidentiels, mais sont dans l'ensemble très prudents dans leurs critiques.
La Corée du Nord a prévenu mardi que des exercices militaires imminents entre Washington et Séoul pourraient avoir des répercussions sur la reprise annoncée de ses pourparlers avec les États-Unis. Elle laisse ainsi entendre que Pyongyang pourrait revoir son moratoire sur ses essais balistiques et nucléaires.
Les États-Unis ont annoncé hier des sanctions contre le commandant en chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing, et trois autres hauts responsables militaires accusés d'exécution extrajudiciaire de musulmans Rohingyas. Ces quatre et leurs familles sont interdits d'entrer aux États-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a aussi demandé que ces militaires soient tenus de rendre des comptes. Selon lui, le gouvernement américain est le premier à agir publiquement à l'encontre des plus hauts responsables de l'armée birmane.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est présenté par Yakuba Ouedraogo.
« Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. La Tunisie et le Nigeria vont tenter de se consoler ce soir en prenant la troisième place de la Coupe d'Afrique des Nations lors de la petite finale. Après des demi-finales à rebondissement et au dénouement cruel pour eux, le rêve d'un deuxième titre s'est envolé pour les Aigles de Carthage et leur sélectionneur le reconnaît, difficile de remobiliser les joueurs. Alain Girès.
Sur le plan mental, et c'est là que c'est le plus compliqué, c'est un match où deux équipes qui vont s'affronter sont deux équipes qui ont essuyé une déception, la déception de ne pas les jouer en finale. Donc c'est une finale de deux équipes qui ont été éliminées. Donc la remobilisation n'est pas la même, il n'y a pas ce côté un petit peu dynamisant, euphorique d'une victoire en demi-finale pour jouer la grande finale. Voilà, c'est la problématique de ce match-là assez particulier sur lequel il faut beaucoup insister pour remobiliser les joueurs qui peuvent avoir une forme de déception qui crée un peu de décompression.
Avant d'atteindre le dernier carré, la Tunisie s'était montrée laborieuse. Après 3 nuls et une qualification par la petite porte en 8e, elle a eu recours au tir au but pour écarter le Ghana et n'a finalement gagné son premier match qu'Ankara contre la surprise Madagascar 3-0 avant le match de la petite finale. L'heure est presque au bilan.
Sur le comportement, l'attitude, l'état d'esprit des joueurs, là, j'ai rien à redire dans l'approche qu'ils ont pu avoir, dans l'adhésion qu'ils ont eue sur tout le travail qui a été proposé. Après, sur l'ensemble du bilan, je crois que le bilan le fera après. Mais jusqu'à présent, on voit qu'on a répondu présent par rapport au match qu'ils ont été proposés.
Alain Girès, sélectionneur de la Tunisie, plus convaincant en poule. Le Nigeria a ensuite sorti le tenant du titre, le Cameroun, en 8e, puis l'Afrique du Sud en quart, avant une élimination face à l'Algérie. Face aux Tunisiens, les Super Eagles pourront s'appuyer sur leur expérience des petites finales. Ils ont déjà fini 7 fois à la 3e place de la CAN contre une fois pour les Tunisiens en 1962. Cette fois encore, les Nigériens veulent accrocher ce 3e rang pour finir leur compétition sur une note positive.
Je pense qu'il est mieux de rentrer avec une victoire au Nigeria, même si c'est une petite finale, qu'avec une défaite en finale. C'est un match pour le plaisir et pour aussi le spectacle, j'espère, parce que nos 3 derniers matchs étaient des matchs de haut niveau, de bonne qualité pour les joueurs et aussi pour les spectateurs.
Guenotro, sélectionneur du Nigeria, autre enjeu de ce match, la place de meilleur buteur de cette édition convoitée par Odion Ighalo. Seul en tête du classement avec 4 buts, le Super Eagles tentera de distancer le Sénégalais Sadio Mané et les Algériens Riyad Mahrez et Adam Ounas en embuscade avec 3 buts et qui s'affrontent vendredi en finale. Toujours dans l'actualité de la CAN, après le fiasco, le grand ménage, Clarence Seedorf a été limogé du poste du sélectionneur du Cameroun, de même que son adjoint Patrick Kluivert, comme nous le dit notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Genentap.
C'est le président de la Fédération camerounaise de football qui a annoncé par voie de communiqué le limogeage de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert. Une décision prise après consultation du comité exécutif de la FECAFOOT et concertation avec le ministre des Sports, précise le communiqué de Seydou Mbombounjoya. Lundi soir déjà, le ministre des Sports a annoncé le ton du limogeage de Dion Néerlandais dans une interview accordée à la télévision d'État. Les Lions indomptables se sont signalés par un jeu parfois inefficace. Leur élimination tient de l'incapacité de sélectionneur à mettre sur pied une équipe conquérante et cohérente, de sa difficulté à maîtriser l'ensemble du groupe et à y faire régner l'ordre et la discipline, a déclaré le ministre Narcisse Moelle-Combri. Avec son adjoint Patrick Kluivert, Seedorf avait signé un contrat de 4 ans, mais celui-ci comprenait pour objectif la victoire à la CAN 2019. Le Cameroun est sorti de la CAN en Égypte dès la phase des 8e de finale, battu par le Nigeria. Yaoundé, Emmanuel Genentap, VOA Afrique.
Le divorce a aussi été prononcé entre le sélectionneur Paul Put et la Fédération guinéenne de football. La FEGIFOOT a annoncé le remerciement du technicien belge pour insuffisance des résultats. Pour rappel, la Guinée a été éliminée en 8e de finale de la CAN par l'Algérie 3-0. Au premier tour, elle avait fait match nul 2-2 avec Madagascar, suivi d'une défaite 0-1 face au Nigeria, puis une victoire 2-0 sur le Burundi. Le Belge a aussi été cité dans l'affaire des raquettes des primes de son staff et de certains joueurs. La fédération a aussi dissous ses 6 commissions et suspendu l'entraîneur national des cadets, Mohamed Malea Camara, et 2 joueurs, Aboubakar Konté et Ahmed Tidiane Keïta, dans l'affaire de la fraude sur l'âge ayant abouti à l'élimination de la Guinée pour la prochaine Coupe du Monde des cadets. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seboudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Bénin, le président Patrice Talon a démarré le dialogue politique après plusieurs semaines de tensions. Toutes les formations politiques, à l'exception du parti Restaurer l'Espoir, ont répondu à l'appel du chef de l'État béninois. Il s'agit de trouver une issue à la crise liée aux élections législatives qui ont été organisées sans la participation de l'opposition. Le point avec Rodrigue Azinombe de la radio Fraternité FM, notre station partenaire à Parakou au Bénin.
Sur les 11 formations politiques invitées à cette première séance par le chef de l'État Patrice Talon, 10 ont répondu présents pour prendre part au dialogue devant permettre de sortir le Bénin de cette crise politique qui dure depuis quelques mois. Seul, le parti Restaurer l'Espoir de l'ancien allié et ex-ministre de la Défense, Candide Azanayi, a préféré la politique de la chaise vide. Cette absence n'a pas empêché la tenue de la séance dirigée par le président en personne qui s'est réjoui de la présence des uns et des autres et surtout a souhaité un dialogue franc et sincère. Patrice Talon.
Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour votre disponibilité. Votre présence vous honore et honore le Bénin entier. Elle est la preuve que nous sommes capables de surmonter nos incompréhensions, nos divergences, nos frustrations, nos révoltes et même nos bagarres. Pour nous retrouver afin de préserver ce que nous avons en commun, la patrie. C'est aussi la preuve que nous sommes capables de reconstruire ensemble ce qui est abîmé au sacrifice de nos intérêts individuels et de nos égaux.
À cette première rencontre, suivront d'autres qui porteront sur des questions de réforme du système partisan, une réforme décriée par bon nombre de formations politiques exclues des dernières élections, mais Patrice Talon se veut rassurant.
À la prochaine étape, c'est tous les partis politiques régulièrement constitués qui seront invités à nos échanges pour évoquer et convenir ensemble des retouches nécessaires à apporter à la charte politique et au code électoral. Et bien sûr, sans remettre en cause la nécessité de réformer notre système partisan.
À la fin de cette première assise, il est retenu que les formations politiques qui ont vu leur dossier rejeté lors des dernières législatives se rapprocheront du ministère de l'Intérieur dès ce jeudi pour les corrections à apporter. Gilda Saïzanon, porte-parole de l'UDBN, joint au téléphone.
Pour nous, c'est vrai, c'est un enthousiasme, mais ce n'est pas un enthousiasme naïf, c'est un pas de poser. Un pas de poser quand même dans la bonne direction.
Pour l'instant, c'est le silence dans le rang des autres formations politiques. Certains parlent de consultations internes pour réponse à apporter aux propositions du chef de l'État, pendant que d'autres essaient de situer où se trouve le piège, si piège il y a, que le chef de l'État leur tend à nouveau. Rodrigue Azinobé de Cotonou pour La Voix de l'Amérique.
Le premier cas d'Ebola signalé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, est décédé sur le chemin de son retour vers Butembo. Il s'agissait d'un pasteur en mission à Butembo avant de se rendre dans la capitale de la province. Sur les pratiques religieuses face à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, Eddie Isango a joint le directeur de l'Institut national des recherches biomédicales, le docteur Jean-Jacques Mouyembe.
C'est confirmé, oui. C'est un pasteur, oui, oui. Aussitôt qu'il a été répondu positif, on l'a remballé, en fait. On l'a fait retourner par route à Butembo. Et il semble qu'il serait mort en cours de route avant d'arriver au centre de traitement de Butembo.
Mais qu'est-ce qui a précipité sa mort? Est-ce que c'est l'état de route ou il était déjà dans un état très avancé?
Bon, il était déjà dans un état très grave, mais le fait de le mettre sur la route de terre que vous connaissez en RDC, ça certainement ça a précipité sa mort. Hein.
Oui, mais le cas qui a été trouvé à Goma pose un problème de cantonnement des cas, parce qu'on pensait que jamais Goma ne serait atteint. Alors, comment quelqu'un qui avait déjà manifesté des signes d'Ebola, fièvre et autres, a pu se dissimuler jusqu'à arriver à Goma.
Bon, il ne s'est pas dissimulé, hein. Ils sont venus en délégation. Il y avait une convention des pasteurs à Goma et les pasteurs de Butembo ont pris, je crois, un moyen de transport. Donc, ce n'était pas en se dissimulant. Ils ont quitté normalement Butembo. Bon, ça, c'est la question que l'on se pose, hein. Et vous savez aussi, c'est vraiment ce que nous devons dire à nos pasteurs. Dans une région où il y a épidémie d'Ebola, il ne faut pas imposer les mains aux malades. C'est un facteur de risque très grand. Chaque malade qui présente de la fièvre dans une zone d'épidémie est un malade suspect d'Ebola, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas imposer les mains sur les malades.
Mais puisqu'ils étaient en convention, n'y a-t-il pas risque qu'il y ait d'autres cas? Parce qu'ils étaient ensemble avec d'autres pasteurs, en fait c'est la communauté, comme vous avez dit, imposer les mains, s'embrasser, tout ça, il n'y a pas risque qu'il y ait d'autres cas?
Bon, le malade d'Ebola devient infectieux au moment où il commence à présenter les signes, donc de fièvre, de saignement, etc. S'il a développé sa fièvre depuis Butembo, donc ce qui veut dire que tous ceux qui ont voyagé avec lui sont donc des contacts directs qu'il faut maintenant suivre au moins pendant 21 jours. Quand il est arrivé à Goma, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a eu encore un contact avec les membres de son église, etc. Tout ça, c'est une enquête qu'on doit mener sur place à Goma pour clarifier la situation. Mais c'est déjà donc une bombe dans la ville de Goma et également une grande menace pour la capitale et pour le pays voisin.
Et qu'est-ce qu'on fait de personnes qui étaient en contact avec les pasteurs, d'abord à Butembo, tout le long du chemin et jusqu'à Goma?
Donc tous ceux qui ont été en contact avec lui, on doit immédiatement les vacciner.
C'était le docteur Jean-Jacques Mouyembe, directeur de l'Institut national des recherches biomédicales.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Le 20 juillet 1969, les astronautes américains Neil Armstrong et Edwin Aldrin ont posé le pied sur la Lune, les premiers hommes sur la Lune. La NASA, l'agence spatiale américaine, célèbre avec beaucoup de fierté le 50e anniversaire de cet événement historique, en restaurant et en rouvrant la salle de commande qui gérait la mission historique Apollo 11. Aujourd'hui, c'est un musée, mais il a l'air bien réel, comme en 1969. Lesia Bakaletz a visité la salle de contrôle. Arzuma Compaoré.
L'aigle a atterri. Tels étaient les premiers mots que les ingénieurs de la salle de contrôle ont entendus de la Lune alors qu'un nouveau chapitre de l'exploration spatiale s'ouvrait. Gene Kranz était le directeur de vol de la mission Apollo. Nous venons d'atterrir sur la Lune et l'équipage a éteint le moteur. Et alors que le monde est célèbre, mon équipe doit continuer à travailler car nous devons nous assurer qu'il est prudent de rester à la surface de la Lune. Le centre de contrôle de Houston a géré des vols spatiaux pendant deux décennies supplémentaires. En 1992, l'équipe de contrôle s'est installée dans une partie plus modernisée du centre spatial et la salle historique a été fermée. J'ai donc nettoyé les consoles, débarrassé des bouteilles et des canettes. Il y avait parfois des objets dans les corbeilles à ordures. En gros, cet endroit n'était pas représentatif des différentes missions de contrôle historique. En 2013, un groupe de rénovateurs a remporté le contrat de restauration pour remettre la salle de contrôle dans son état du 20 juillet 1969. Adams Grave est un des responsables à Historic Preservation.
35 entretiens avec les contrôleurs de vol. Ils se sont assis à chaque console et ont indiqué le bouton avec lequel ils interagissaient le plus et ce qu'ils faisaient sur leur console. Cela a beaucoup aidé le processus de restauration.
Les rénovateurs ont passé 5 ans à effectuer des recherches minutieuses. Le plus gros défi était celui de restaurer les consoles et de s'assurer que les grands écrans, les éléments les plus grands et les plus visibles de la salle, ont exactement le même aspect qu'il y a un demi-siècle.
Les écrans 1, 2 et 5. Et pendant peut-être plus d'un an, nous n'avons pas pu trouver ce qui était supposé être affiché sur ces écrans pendant la descente et l'atterrissage. Après plusieurs recherches, nous avons trouvé la vidéo adéquate qui nous a montré un morceau de ce que nous devions faire pour le reconstruire.
Aucun détail n'était trop petit. Les rénovateurs ont trouvé du papier à lettres de la fin des années 1960, ainsi que des cendriers, des cigarettes et des canettes de soda. Le centre de contrôle de la mission restaurée est ouvert aux touristes qui peuvent le voir à travers une grande baie vitrée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Johnny Clegg incarnait avec ses chansons mélange inédit de rythmes zoulou et de pop, la résistance à l'apartheid depuis la réconciliation. Le zoulou blanc sud-africain s'est éteint hier à l'âge de 66 ans, Eric Manirakiza.
Née en 1953 au Royaume-Uni d'un père britannique et d'une mère zimbabwéenne, chanteuse de jazz, Johnny Clegg débarque à l'âge de 7 ans dans une Afrique du Sud où la minorité blanche règne à maître absolu sur la majorité noire. Il se glisse dès 15 ans dans les foyers de travailleurs noirs. Là, il découvre les danses et les mélodies zoulou et s'invite secrètement pour danser avec les troupes traditionnelles. Une musique où les rythmes zoulous endiablés cohabitent avec guitare, clavier électrique et accordéon. Pendant les pires heures de l'apartheid, les chansons sont interdites. Pour contourner la censure, il est obligé de se produire avec son groupe Chuluka, formé avec le musicien zoulou Sipho Mchunu, dans les universités, les églises, les foyers de migrants. Ses concerts sont interdits par la police et le chanteur est à plusieurs reprises arrêté, accusé de violer les lois sur la ségrégation raciale. En 1982, la sortie de son album Scatterings of Africa le propulse en tête des hit parades. 5 ans plus tard, il s'affirme comme un artiste politique avec le titre Asimbonanga. Nous ne l'avons pas vu en langue zoulou, tube planétaire dédié à Nelson Mandela, alors emprisonné à Robben Island en Afrique du Sud. Asimbonanga, comme toute évocation de Mandela à l'époque était alors strictement interdite, Pretoria a donc banni le titre. Quelques années après la fin de l'apartheid, Johnny Clegg et Madiba, désormais libres, se sont retrouvés sur scène à Francfort, en Allemagne, pour un concert inattendu et magique. À la fin de la chanson, Mandela avait lancé de sa voix posée au micro.
Well, it is a music and dancing that makes me at peace with the world.
C'est la musique et la danse qui me mettent en paix avec le monde. Après une nouvelle rémission d'un cancer du pancréas diagnostiqué en 2015, Johnny Clegg se lance dans une tournée mondiale d'adieu dont les derniers concerts ont eu lieu en 2018. Il est décédé ce mardi à Johannesburg entouré de sa famille. À vous tous admirateurs de Johnny Clegg, c'est le moment de mettre fin aux pleurs pour savourer sa mélodie.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seboudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. I'm gonna go to the bathroom.